Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là avec vous dans cette édition du 4 décembre 2022. Ça achève cette année-là, ça achève, mais on est là avec vous encore. Je veux prendre le temps de vous souhaiter un joyeux temps des fêtes parce que tranquillement, pas vite, on va se rendre là. On va y arriver et je veux vous remercier d'être là, je veux vous remercier des bons mots hein, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé « Jeff, c'est quand tu reviens, on s'ennuie ». Alors merci d'être là, Papa Rizia qui est là avec nous via la plateforme Twitch et qui dit « Bonsoir à tous, j'avais hâte, bien content ». Nous autres aussi, on avait hâte d'être là. Mathieu qui dit « Bonsoir ». Alors, bonsoir à vous tous. Considérez-vous comme étant salués. On va partir donc le show de ce soir en se parlant, bien sûr, du Canada qui a terminé son passage donc à la Coupe du Monde Qatar 2022. Êtes-vous déçu? Êtes-vous amer? Êtes-vous content de la prestation de la formation de John Herdman? On va s'en parler. On va se parler également du CF Montréal, puisque ça bouge pas mal. Ça bouge pas mal présentement. Et de quoi aura l'air? De quoi aura l'air l'alignement du CF Montréal pour la saison 2023? Ça va être vraiment intéressant de suivre ça, parce qu'il risque d'y avoir pas mal de changements qui sera fait. Martin Pilon est avec nous via Facebook. C'est le fun parce qu'on réagit énormément sur l'ensemble des plateformes. Donc, Martin est sur Facebook, Mathieu est sur YouTube, Paparizia est sur Twitch. C'est vraiment le fun de voir ça. Donc, merci et bienvenue à toutes vous autres. Donc, Canada 2022. Est-ce que John Herdman est l'homme de la situation? Et surtout, est-ce que les attentes ont été atteintes du côté de la formation canadienne? Donc, c'est vraiment intéressant de voir tout ça. Mathieu qui dit « Il n'y a personne via Twitter ». On n'est pas capable de prendre, depuis le changement Twitter, les commentaires directs dans la chatroom. À partir de Twitter, c'est plus difficile, en tout cas, que ça l'a déjà été. Alfredo Martinez Rodriguez, qui est là avec nous également via la plateforme Facebook et qui nous dit « Salut Jeff ». Alors, salut. Donc, on va se parler du Canada. Le Canada qui est éliminé. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes amer? Est-ce que vous êtes content? Je veux revenir tout d'abord sur les attentes envers cette Coupe du Monde-là. Je ne sais pas c'était quoi vos attentes. Vous êtes quelques-uns là, branchés avec nous via les différents réseaux sociaux. Si vous pouvez partager quelles étaient vos attentes au début de la Coupe du Monde. Donc, avant qu'on apprenne que la sélection canadienne allait affronter des adversaires coriaces, on va le dire comme ça, dans le groupe F, comment vous placez vos attentes? Sébastien Bouffard qui se greffe à nous via la plateforme Facebook et qui dit « Salut Jeff, salut Sébastien, merci d'être là, bien branché avec nous ». On a fait quelques modifications en studio pendant que je vous ai toutes là. Si vous pouvez me confirmer que le son est correct, ça a l'air bien parce que vous intervenez, j'imagine qu'on m'entend, mais ça serait le fun de confirmer que tout est dans l'ordre parce qu'on a fait des changements d'équipement quand même relativement importants en studio. Alors, les attentes du face à la sélection canadienne, Alfredo qui nous dit « le son est correct, parfait, le son est très bien, le son est bon pour moi, tant mieux, excellent », si ça marche pour tout le monde, on est content, c'est ça de régler. Et je vais juste faire un petit aparté parce qu'on travaille beaucoup en coulisses. Hein. Présentement, on n'est pas là puis on se place pour la saison 2023. On s'attend à une grosse saison à BBN Media pour 2023. Et sincèrement, on travaille beaucoup en coulisses. Donc, je profite un peu du temps mort, on va le dire comme ça, pour peaufiner quelques petits points techniques. Et on a plein de nouvel équipement. Donc, on va essayer tester tout ça ce soir, puis je vais vous inviter en tant qu'auditeur tantôt à venir donner votre opinion. Si votre caméra est ouverte et que je vous vois la face, je vous rentre en studio, sinon je vous prends juste le son. Donc si vous laissez votre caméra fermée, je vais prendre juste le son. Donc Mathieu qui dit d'abord, c'était quoi les attentes? Sincèrement, moi mes attentes, je vais être bien franc avec vous, elles étaient... sans dire minime pour la Coupe du monde du Qatar 2022, mais mes attentes à moi, c'était que le Canada réussisse à marquer un but. C'était ce que je voulais. Et deuxième chose que j'aurais aimé aurait été de voir le Canada faire un match nul. Avec la physionomie des matchs, à voir comment le Canada est sorti. Bon, en cours de route, j'aurais peut-être aimé qu'on en gagne un, parce que le match qui était le premier match face à la Belgique, on a montré des signes très encourageants dans la performance de la sélection canadienne. Et je pense que, sincèrement, si le tournoi se serait fait dans l'autre sens, je pense qu'on aurait connu des meilleurs résultats. Donc, de débuter le tournoi face à la Belgique, je pense que ça a nuit un petit peu au Canada. Si on aurait commencé Maroc, Croatie, Belgique, je pense que ça nous aurait beaucoup aidé. Mathieu nous dit les attentes varient beaucoup parmi les partisans. En effet, hein, les attentes ont vraiment changé beaucoup selon les différents partisans qu'on avait. Et j'ai vraiment hâte de voir là, comment est-ce que tout ça va dérouler et comment tout le monde va analyser tout ça. Sébastien nous dit « Je suis bien content, j'ai assisté à un but historique du Canada. » Moi, mon attente, elle était là. Peut-être pas la vôtre, mais mon attente, c'était de voir le Canada marquer un premier but pour premier but de son histoire en Coupe du Monde. Simon dit, tu es revenu, salut, merci Simon, je suis bien content d'être là. Paparizia, qui est là avec nous via la plateforme Twitch, nous dit, Jeff, je suis un peu resté sur mon appétit. L'attaque est bonne, mais la défense n'est pas au niveau. Je pense qu'effectivement, il a manqué quelque chose. Est-ce que c'est au niveau de la défensive ou de la transition? Donc, le milieu de terrain et la transition entre l'attaque et l'offensive lorsqu'on perd le ballon. Donc, le retrait, le repli défensif, je devrais le dire comme ça. Moi, je pense que c'est ce qui a fait défaut chez la sélection canadienne. Mais tout ça pour vous dire que je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur sort face à la Belgique. Mon attente à moi était de marquer un but. Le Canada l'a fait, donc je peux vous dire que c'est objectif accompli. Par contre, après le premier match face à la Belgique, j'étais confiant de voir le Canada obtenir de meilleurs résultats dans les deux autres matchs. Faut pas se leurrer, la Croatie était quand même une excellente formation qui avait obtenu des très bons résultats dans le passé. Et le Maroc, je pense que il n'y avait plus rien à jouer pour la sélection canadienne. Et moi, c'est là que ça me déçoit un peu. Je vais en revenir dans quelques instants lorsqu'on va se parler du coach John Herdman. Simon nous dit via Facebook, au soccer, on n'est pas comme au hockey et au tennis. Ça aurait pris un miracle pour passer. C'est pas notre sport national, le soccer. Michael, qui est là avec nous via YouTube, dit « Les gens voyaient l'équipe plus belle que ce qu'elle est, plus un mauvais tirage à l'intérieur d'un groupe trop fort. On était dans un groupe très fort. » Mathieu dit « J'espérais au moins un point pour faire mieux qu'en 86. » Tu vois, quand je disais tantôt que les attentes n'étaient pas pareilles, Moi, sincèrement, elles ont changé en cours de route. Mathieu, je vais être bien franc avec toi. Mon attente de départ était de marquer un but. C'est tout ce que je voulais. Et lorsque j'ai vu le Canada sortir contre la Belgique, je me suis dit, OK, on est peut-être capable de plus. Et un bout de temps, je me suis même mis à dire, bon, je pense que les deux qui vont sortir de la phase de poule, c'est le Canada et la Belgique. J'y ai cru. Papa Rizzi, elle dit, la Belgique a mal paru, a très mal paru, ouf, en effet, la Belgique sort pas. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui avaient prédit que ça serait Croatie-Maroc qui sortirait du groupe F. Et le groupe F, ben, n'était pas un groupe facile, surtout pour un Canada qui effectuait une première visite à la Coupe du Monde depuis 1986. Sébastien dit, moi je dis, si on aurait gagné contre la Belgique, le momentum aurait changé. Même plusieurs Belges ont dit que le Canada aurait dû gagner. J'y crois sincèrement, Sébastien. Je crois que le Canada, effectivement, aurait dû remporter cette rencontre-là. Et je me demande sincèrement aujourd'hui si John Herdman est l'homme de la situation. On va essayer justement nos petits boutons. Alors, si jamais vous êtes là et que vous voulez intervenir à savoir si John Herdman est l'homme de la situation, ben je vous invite à venir nous rejoindre en studio. Je vais faire un autre appel à vous un peu plus tard pour parler du CF Montréal et de l'alignement de votre crainte face à l'alignement 2023. Mais pour l'instant, je veux vraiment qu'on s'arrête sur les attentes face au Canada. Donc, est-ce que John Herdman est l'homme de la situation? Je reviens au commentaire de tout à l'heure, Sébastien, qui mentionnait. Moi, je dis, si on aurait gagné contre la Belgique, le momentum aurait changé. Même plusieurs Belges ont dit que le Canada aurait dû gagner cette rencontre-là et je suis d'accord. Je suis sincèrement d'accord avec cette affirmation-là parce que moi, je pense que John Herdman, je vous donne mon opinion, n'a pas été à la hauteur d'un entraîneur pour gagner ou obtenir des résultats, appelez-le comme vous voulez, à la Coupe du Monde Qatar 2022. La première erreur de coaching qui me saute aux yeux, jamais Alphonso Davies aurait dû être appelé au penalty, selon moi. Et c'est une vision bien personnelle. Tu as Jonathan David qui marque, qui fait des penalties, qui obtient des résultats. On en a parlé dans un space Twitter après la rencontre avec les auditeurs, les auditrices. Mais pour moi, tu devais confier le rôle de prendre le tir de pénalty octroyé au Canada à Jonathan David. On l'a laissé à Alphonso Davies. Certains m'ont dit, Jeff, c'est les gars sur le terrain qui choisissent. Ça va vite, tout se passe vite. Il y a sans dire un scrum qui se fait sur le terrain, mais il y a une discussion qui se fait entre les joueurs et on essaie d'établir un consensus à savoir qui va tirer. Mais j'ai rien contre ça. Par contre, derrière tout ça, il y a un entraîneur-chef qui doit dire non. Là, les gars, on n'a pas la bonne décision. Et pour l'équipe, ben, on va envoyer non pas Alphonso Davies, mais Jonathan David prendre ce tir de pénalty. Ce qui aurait été logique, comme décision, et pour moi, qui aurait fait beaucoup plus de sens, et d'envoyer Jonathan David s'il inscrit un but. Puis là, c'est facile pour moi, et c'est ça la beauté d'être un fanaliste, c'est que c'est facile pour moi, après que Alphonso Davies ait manqué, de dire on aurait dû envoyer Jonathan David. Mais c'est une décision de coaching qui sautait aux yeux. Jonathan David devait être le joueur établi pour prendre ce lancer-là. Et pour moi, ça fut vraiment une grosse erreur. Je vous ai dit qu'on allait vous ouvrir la place et vous laisser la parole. On va aller rejoindre Mike Paul de Longueuil. Mike, est-ce que tu es là? Bonjour Mike. On va essayer de parler à Mike dans quelques instants via le téléphone. Mais ça ne semble pas fonctionner pour l'instant parce que je n'entends pas. Mike, est-ce qu'on va réussir à l'avoir? En tout cas, on va rester là. Et gênez-vous pas, hein? On a lancé l'appel via les réseaux sociaux pour vous inviter à venir participer et donner votre opinion sur le show de ce soir, à savoir comment vous voulez entendre ça, comment vous voyez ça. Moi, je veux votre opinion là-dessus. Est-ce que les attentes ont été atteinte par John Herdman et est-ce qu'il est l'homme de la situation? Je prends quelques commentaires. Alfredo Martinez sur Facebook nous dit, d'ailleurs, l'entraîneur n'a même pas fait jouer Samuel Piet. Et tu vois, ça, pour moi, là, c'est un problème. On s'est réjoui qu'il y avait plusieurs personnes, plusieurs joueurs du CF Montréal qui avaient été sélectionnés par John Herdman pour participer, bien sûr, à cette Coupe du Monde-là. Et malheureusement, ben, on a plusieurs joueurs qui n'ont pas participé. Et ça, pour moi, ça ne marche pas. Ça, pour moi, c'est triste. Et je suis vraiment déçu, sincèrement, qu'on n'ait pas été en mesure d'offrir du temps de jeu à Samuel Piet. Il y a quelques joueurs. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas joué. Et ça, ben, c'est un problème. Je vais juste inviter les auditeurs à venir nous rejoindre en studio si jamais vous voulez le faire. Donc, Alfredo qui nous dit l'entraîneur n'a même pas fait jouer Samuel Piet et ça, moi, j'ai été déçu. Puis, Sébastien réplique, je suis très déçu que le coach n'a pas laissé quelques minutes de jeu à Sam Piet dans un des trois matchs. Il méritait de jouer un peu. Lors du troisième match, il n'y a plus rien à jouer. Le Canada le sait, est déjà éliminé. Fallait changer. Pas la dynamique, mais fallait amener peut-être du temps de jeu aux joueurs qui étaient là, qui faisaient partie de la sélection, qui se sont entraînés avec cette formation-là et qui n'ont pas eu la chance de goûter à l'expérience de la Coupe du Monde. Samuel Piet rentre au bercail, donc sans avoir pris une seule minute à l'intérieur du tournoi de la Coupe du Monde. Et je trouve ça décevant, surtout dans une cause perdue où le Canada n'avait plus rien à prouver, n'avait plus rien à jouer alors que les jeux étaient faits et qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Donc ça, moi, je trouve ça ordinaire de la part de John Herdman. Mais il y a plusieurs décisions qui me font douter de la capacité de l'entraîneur-chef. Donc Sébastien qui nous disait tout ça. Martin qui nous dit, et ça c'est très important, parce que quand je vous parlais tout à l'heure des attentes pour la sélection canadienne, Martin Pilon sur Facebook nous dit, « Jeff, la Coupe du Monde 2022 était pour moi la Coupe de l'apprentissage. Les attentes seront plus élevées en 2026 et je suis parfaitement d'accord avec ça. Moi, je pense qu'il fallait amener les plus jeunes du groupe à aller chercher des minutes de jeu. » Et pour moi, il y a des manques envers la préparation de 2026. Il va falloir faire des modifications. Je vous reviens là-dessus dans quelques instants. J'ai une liste d'épicerie pour 2026. Paparizia nous dit « Très bon motivateur. Le schéma tactique aurait pu être mieux. Plusieurs vieilles jambes n'avaient pas la forme pour jouer trois parties de suite. » Et moi, ça fait partie des éléments, Paparizia, qui, sans dire m'ont surpris, mais m'ont déçu de l'entraîneur-chef. Donc, son incapacité à prendre son rôle de leadership et de dire à Alfonso Davies, « Garde, je comprends que tu es le joueur international peut-être le plus connu au sein de cette sélection-là. Par contre, Davies, ce n'est pas à toi de prendre le penalty. » C'est Jonathan David qui va le prendre. Donc, première erreur John Herdman, selon moi. La deuxième erreur de John Herdman, c'est Atiba. Je comprends que le gars a tout donné pour la sélection. Je comprends qu'il était à son dernier tour de piste. Je comprends qu'on le respecte énormément au sein du vestiaire, au sein du groupe, au sein du collectif, au sein du coaching staff et de la relation qu'on a avec Atiba. Je respecte tout ça. Par contre, après, je pense que c'est le deuxième match. John Herdman a mentionné « J'ai pensé à retirer Atiba vers la 75e minute de jeu, mais il voulait pas. » Et ça, malheureusement, rendu à ce niveau-là, tu peux pas dire à un joueur « Regarde, viens-t'en sur le banc, on fait un changement, on veut changer la dynamique » et dire « Bon, finalement, on fera pas le changement. » Le joueur ne voulait pas quitter le terrain. C'est ridicule. Il y a un entraîneur-chef et c'est à ça qu'il sert l'entraîneur-chef, à prendre ce genre de décision-là qui, dans le tactique, va améliorer les choses. Donc, Paparizia qui nous dit « Le schéma tactique aurait pu être mieux », mais c'est également ces décisions d'entraîneur-chef-là qui doivent changer. Michael nous dit « Sa déclaration non respectueuse envers la Croatie n'était pas nécessaire. » Effectivement, ce n'était vraiment pas nécessaire. Et savez-vous quoi? Je pense sincèrement que on a, du côté de John Herdman, on a essayé de prendre la pression sur nos épaules parce que il ne voulait pas se faire parler d'Alfonso Davies qui avait manqué son penalty. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une déclaration comme ça à l'emporte-pièce, à brûle-pourpoint, pour prendre la pression sur ses épaules plutôt que de la mettre sur son groupe de joueurs. Mais effectivement, ça aurait pu être plus opportun que ça. Et je ne suis pas certain. Sébastien nous dit « Il y a le message que le coach a dit avant le match, la Croatie. Je sais qu'en faisant ça, il a voulu faire oublier le penalty, manquer et motiver ses joueurs, mais la Croatie s'est servie de ça contre nous. » Mais c'est mon opinion. Je pense qu'il n'aurait pas dû dire ce qu'il a dit. Je suis exactement à la même place. Là, on est deux, trois avec moi qui croient que la déclaration était un peu maladroite. Bien qu'on comprend l'intention derrière cette déclaration-là, je crois qu'effectivement, fallait faire attention à nos propos et fallait pas nécessairement aller de ce type de déclaration-là qui a aidé, bien sûr, la Croatie à surfer là-dessus. Donc, c'est décevant à certains points. Maintenant, ben, il faut se tourner vers 2026. Moi, j'ai une liste d'épiceries. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais il y a trois choses que je veux voir en vue de 2026 qui, on le sait, Coupe du monde sera présentée au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Faut aller chercher davantage d'expérience internationale de haut niveau. Donc, des Alfonso Davies, des Jonathan David, faut vraiment compter sur des joueurs qui ont été chercher un plus haut niveau de jeu. Parce que ça a fait mal. Ça a fait mal à certains moments. Et la sélection canadienne, si tu veux gagner des matchs en Coupe du Monde, il y a deux choses que tu dois gérer. Il y a deux moments dans un match que tu dois gérer, c'est les temps forts et les temps faibles. La sélection canadienne a été capable de gérer ses temps forts et on l'a vu contre la Belgique, a été en mesure de mettre énormément de pression sur les temps forts. Kevin Poiré, qui est avec nous via Twitter, nous dit Herdman a été mauvais, en commençant avec l'utilisation de Chinson, qui a été un désastre, même au dernier match. Je ne comprends pas pourquoi c'est lui qui rentre. Et c'est effectivement ça. La question qu'on se pose, c'est pourquoi on le fait jouer. Donc, Kevin complète son commentaire. Même au dernier match, je ne comprends pas pourquoi c'est lui qui rentre au lieu de rentrer un Samuel Piet pour lui donner des minutes à cette Coupe du Monde. Un grave manque de respect à l'endroit du capitaine du CF Montréal, Samuel Piet. Donc, c'est exactement tout ça. Je vais faire le tour quelques commentaires. sur Twitter, Mike, qui nous dit que le coach n'est pas à la hauteur techniquement et stratégiquement. Ça, c'est ce qu'il retient du passage du Canada à la Coupe du Monde. Que la relève est bonne. Beaucoup de gars de moins de 26 ans ont participé. Que Max Crépeau aurait fait mieux que Milan Borjan et que les médias pensent encore le CH loin devant le soccer canadien. Plessius dit il n'y en aura pas, mais OK, non, ça c'est pour l'autre sujet de tantôt. Bref, tu sais, on est à peu près tous à la même place, mais des joueurs qui ont de l'expérience internationale, faudra en ajouter parce que c'est comme ça qu'on va gérer les temps forts et les temps faibles. Et là, le problème qu'on a eu, c'était de gérer nos temps faibles. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour 2026? De quoi on a besoin pour 2026 afin de s'assurer que cette formation-là soit en mesure de venir à la Coupe du Monde, Canada, États-Unis, Mexique, et de réussir à faire de quoi de bien? Il faut des joueurs d'expérience internationale de haut niveau. Parce que là, ce qu'on n'a pas été capable de faire, selon moi, c'était de gérer les temps faibles du match, les moments faibles. Donc, où ce qu'on est, je vais dire, down tempo, c'est là qu'on a eu de la difficulté. Deuxième chose, il faut de la profondeur. Parce que ce qu'on a vu, et c'est directement lié à l'expérience internationale de haut niveau. Ce qu'on a vu, c'est une formation canadienne manquer de ressources à un certain moment. Donc, fallait changer l'allure du match. Fallait amener ça à un autre niveau. Et John Herdman n'a pas été capable, avec ce qu'il avait sous la main, de faire les modifications en cours de match qui allaient amener cette formation-là à sortir d'un certain bourbier et à venir réussir à reprendre le lead du match. Et ça, ben, ça va être important pour 2026, donc de la profondeur. Et quand on voit des joueurs quitter, comme c'est le cas chez le CF Montréal, on va s'en parler plus tard, mais c'est le genre de choses à laquelle on pourra travailler autour d'eux, comprenez-vous? Donc, le fait que des joueurs canadiens s'en vont sur le marché européen et dans des compétitions peut-être plus relevées que le CF Montréal et la MLS, bien, ça va donner un peu de chance et d'opportunité pour les joueurs canadiens de gagner de l'expérience à haut niveau. Et ça, bien, automatiquement, ça va amener plus de profondeur. Mais selon moi, il faut un entraîneur-chef pour cette formation-là. Et je veux pas revenir sur John Herdman. Est-ce qu'il a bien fait, mal fait? Il a fait partie, je vous dis exactement ce que je pense, il a fait partie d'un processus important de construction de cette formation-là. John Herdman a pris des joueurs avec des capacités individuelles et a amené ces joueurs-là à créer un collectif qui est la formation, la sélection canadienne. Donc, pour ça, il fallait un entraîneur-chef. Et je vais tisser un lien avec Wilfried Nancy, si vous me le permettez. Mais c'est exactement ça. Wilfried Nancy était un psychologue, était un professeur, était un entraîneur, était un papa même pour certains joueurs. Bref, il a amené cette formation-là du CF Montréal à un autre niveau et je crois sincèrement que John Herdman a fait exactement pareil. A fait exactement pareil avec la sélection canadienne. Par contre, maintenant qu'on a un collectif, là, il faut upgrader. Il faut aller chercher la coche qui va nous permettre de gagner des matchs, qui va nous permettre d'avancer et d'aller de l'avant en 2026. Et pour moi, il y a une loi en leadership qui est très importante, c'est la loi du plafond. Et je pense qu'on a atteint le plafond de leadership du côté de John Herdman. Donc, malheureusement, là, il faut des entraîneurs à un autre niveau. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de mettre en place un entraîneur à un autre niveau que John Herdman pour poursuivre le travail de développement? Je pense que oui. Marc-André nous dit, penses-tu qu'on pourrait voir une défense à 4? Il y a plein de possibilités et l'important, c'est de réussir à amener cette équipe-là à un autre niveau. Arius qui est là avec nous, qui nous dit, nous avons beaucoup de travail à faire, Jeff, pour 2026. Et c'est vrai. Et je crois que le Canada, s'il veut arriver à connaître du succès, parce que là, les attentes, je vous ai dit les miennes, là, puis je connais pas les vôtres personnellement, mais moi, mon attente pour la Coupe du Monde 2022, c'était quoi? C'était de marquer un but. Le Canada l'a atteint. Donc, je peux pas être déçu aujourd'hui du passage du Canada. Comme je vous dis, après avoir vu le Canada sortir contre la Belgique, je pensais qu'on allait sortir plus fort pour les deux matchs d'après. Et pour moi, c'est directement relié à la capacité de leadership de l'entraîneur-chef John Herdman, envers qui j'ai énormément de respect, envers qui je pense qu'il a pris un programme, je voudrais pas dire tout croche, mais qui a pris un programme où visiblement l'évolution sur le terrain allait beaucoup plus rapidement que l'évolution administrative de la sélection canadienne. Et malgré tout ça, ben il a réussi, John Herdman, à faire un collectif qui fait du sens avec tout ça. Maintenant, Arius qui nous dit « Nous avons beaucoup de travail à faire pour 2026, c'est énorme ». Et moi, ma liste d'épicerie, ben, je vous l'ai présentée, c'est d'aller chercher de l'expérience internationale de haut niveau, c'est d'aller chercher plus de profondeur et c'est d'aller chercher un coach. Il y a 7 joueurs sur les 26 avec la sélection canadienne qui n'ont pas connu une minute de jeu. Et ça, c'est un problème grave de profondeur. Donc, il faut aller chercher de la profondeur si on veut réussir à avancer un pas de plus. Mais malgré tout ça, je pense que John Herdman aurait pu aider la formation canadienne à obtenir un meilleur sort avec une meilleure stratégie de jeu et des meilleurs choix. Arius dit « Je suis d'accord avec un gros manque de profondeur. » Et la question est de savoir, est-ce qu'on va avoir une nouvelle cohorte qui va pousser et qui va avoir le temps de se développer sur le marché international pour atteindre ces objectifs-là? Et là, il y en a plusieurs d'entre vous qui sont déçus présentement de tout ce qui se passe avec le CF Montréal. Et on en arrive dans quelques instants. On va s'en parler des joueurs canadiens qui ont été vendus. Je pense à Ismaël Koné, je pense à Alistair Johnston. Mais ces gars-là vont aller chercher une autre coche, un autre niveau, un autre bagage d'expérience, respectivement avec Watford et le Celtics, dans le cas d'Alistair Johnston. Mais il faut aller développer ces joueurs-là et peut-être travailler plus souvent ensemble. Est-ce qu'il doit y avoir plus de rendez-vous pour la sélection canadienne, de regrouper ces joueurs-là, de créer de quoi bien avec ce collectif-là? Je pense que oui. Arius qui dit, quand tu vois que Davies doit jouer au plus haut, doit jouer un cran plus haut sur le terrain, contrairement au Bayern, c'est un signe d'un manque de profondeur. Et est-ce que c'est le schéma tactique qui fait défaut de l'entraîneur? Est-ce que c'est l'animation du schéma tactique? Peut-être aussi, mais définitivement, pour moi, quand je vous dis qu'il y a certaines lacunes chez John Herdman, ben, le fait de dire que, regarde, Alphonso Davies ne jouera pas à la place qu'il occupe avec le Bayern. Il joue. Alphonso Davies, là, qu'on le veuille ou non, fait partie pour moi des meilleurs latéraux de la planète en ce moment. Donc, travaille autour de ça. Là. C'est ton pilier au sein de la formation présentement. Utilise-le à sa place. Utilise-le dans son schéma. Utilise-le dans sa façon de jouer. Et si on joue, par exemple, un 3-5-2, ben, on va pouvoir aller chercher tous les attributs, toutes les qualités et tout le potentiel d'Alphonso Davies. Maintenant, est-ce qu'on peut enrober tout ça pour lui permettre d'exprimer ce talent-là? Moi, je pense que oui. je pense qu'on était capable, avec l'alignement qu'on avait, de connaître un meilleur sort. Maintenant, faut aller chercher de la profondeur. Et c'est sûr que l'expérience gagnée par nos jeunes joueurs, tout à l'heure, il y avait un commentaire à l'effet qu'on avait beaucoup de joueurs moins de 26 ans. Bien, ces joueurs-là vont gagner de l'expérience. Et ça, c'est important, cette expérience-là. Martin Pilon sur Facebook nous dit « Une présence en Coupe América en 2024 pourrait aider à la progression au niveau de l'apprentissage de jouer des matchs de haut niveau. » C'est le genre de mouvement qu'il faut viser. Il faut absolument viser à prendre de l'expérience de haut niveau si on veut que cette sélection-là continue de progresser. Donc, ça fait le tour pour la sélection canadienne. Je veux qu'on se parle un peu du CF Montréal maintenant. Avec sa vision recruter, former, vendre, le CF Montréal, beaucoup de changements à prévoir en 2023. Et j'ai hâte, sincèrement, de voir de quoi aura l'air cette formation-là. Et savez-vous quoi? Je sens que vous êtes un peu nerveux. Je sens que vous êtes un peu stressé face à l'édition 2023 du CF Montréal. Et là, je vais vous inviter à venir vous joindre à moi et avoir votre opinion sur 2023. Donc, est-ce que le CF Montréal, l'alignement, vous rend nerveux? Alfredo nous dit, moi j'ai hâte au nouveau maillot. Ça, on devrait avoir ça au mois de février, normalement, Alfredo. Et j'ai vraiment hâte, moi aussi, de voir le nouveau maillot. Je fais partie de ceux, je pense, qui ont contribué énormément à l'achat de marchandises du CF Montréal pour 2022. Je vais faire autant pour 2023 et ça va être intéressant. Arius nous dit « Le CF, ça commence avec le coach. S'il y a un gros changement, ça va être tout à recommencer. Un projet de jeu, c'est long à installer. » Et Arius le sait parce que il coach quand même à un haut niveau en PLFQ, donc la première ligue de futsal, que vous avez vu des images d'ailleurs à BBN Media. Mais Arius est dans une très bonne position pour nous faire le commentaire qu'il fait présentement, de dire, regarde, s'il y a un changement, tout va être à recommencer. Les rumeurs vont bon train là, pour un départ de Wilfred Nancy avec le crew de Columbus. Et j'ai hâte de voir si effectivement Wilfred Nancy va quitter pour le crew de Columbus. Il n'y a rien qui est annoncé, mais là, il y a plein de monde qui l'ont vu avec des dirigeants. Bref, je pense que ça va changer. Mathieu nous dit, as-tu fait le sondage? T'en penses quoi, toi, pour 2023? Je vais vous le dire dans quelques instants. Je m'en viens là, Mathieu. Martin nous dit, est-ce que tu penses que les joueurs vendus peuvent revenir en prêt s'ils n'ont pas de temps de jeu qu'ils souhaitent dans leur nouveau club? Ça, c'est la question que j'ai posée tantôt sur Twitter, Martin, et je la trouve intéressante. Et je ne sais pas si vous avez écouté le balado de Mathieu avec Antoine aujourd'hui, les 60 minutes de foot, où on parle donc du côté de Mathieu et Antoine, justement, de la vente de certains joueurs du CF Montréal, entre autres Alistair Johnston et Ismaël Koné, qui devraient être confirmés sous peu. Mais est-ce que ces joueurs-là pourraient revenir en prêt au CF Montréal s'ils n'ont pas de temps de jeu? Parce que si je vous parlais tantôt du temps de jeu, c'est que Mathieu, dans le balado d'aujourd'hui, faisait une analyse quand même assez intéressante en disant que Watford, qui est l'équipe qui va signer Ismaël Koné, se bat présentement pour remonter en Première Ligue. Et je vais être franc avec vous, si ça arrive, je pense que le temps de jeu d'Ismaël Koné va être quand même relativement limité. Puis je comprends qu'il y a des atouts. Je comprends que c'est un bon joueur, Ismaël Koné. Je comprends qu'il a des aptitudes et des attitudes à devenir un grand joueur. Par contre, je vous rappelle qu'Ismaël Koné ne jouait même pas en MLS il y a de ça une saison et qu'il n'était pas un titulaire. Comment je pourrais dire? Un titulaire confirmé au sein de toutes les formations de la MLS. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends, pour moi, là, si tu me dis un joueur va obtenir des minutes sur une base régulière en Premier League, ben pour moi, il faut que ce joueur-là soit titulaire indiscutable, peu importe la formation MLS avec qui il évolue. Donc, peu importe la formation avec qui tu le mets, fallait qu'en 2022, Ismaël Koné soit titulaire incontestable. Pour moi, sinon, ça ne fait pas de sens de le mettre directement titulaire en Premier League. Donc, est-ce que son temps de jeu va être limité? Et si oui, si c'est le cas et que son temps de jeu est limité, ben je pense qu'on va freiner son développement. Je pense qu'on va freiner son développement. Et c'est pour ça que je vous invitais à aller écouter le podcast d'aujourd'hui de Mathieu. C'est que c'est un peu l'analyse qu'il faisait. Est-ce que tous les joueurs qui ont été vendus avaient atteint leur plein potentiel? Parce qu'on se rappelle, la stratégie du CF Montréal, c'est recruter, former, vendre. Ce qui se passe après, ben, sans dire qu'on s'en fout, ça nous regarde un peu à partir de ce moment-là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des joueurs qui ont quitté, mais qui n'auront pas ou peu de temps de jeu, est-ce qu'on pourrait les voir revenir? Mathieu nous dit « Les joueurs peuvent revenir en prêt comme Balou en 2019. » Et tantôt, ben, je posais la question sur les réseaux sociaux. Antoine me dit justement « genre comme Balou ». C'est quelque chose qui pourrait être possible. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Maintenant, est-ce qu'on s'est gardé une porte ouverte ou est-ce que les formations qui ont ces joueurs-là, je pense à Watford, je pense aux Celtics, est-ce qu'ils vont les diriger vers d'autres formations européennes de deuxième ou de troisième division pour qu'ils aient du temps de jeu et qu'ils se développent? Ben, peut-être que oui. Mathieu dit « J'espère que le CF Montréal a mis une clause de prêt dans le transfert de Ismaël Koné. » Et moi, c'est un peu ce que j'espère également. Puis on le saura un peu plus tard, mais s'il n'est pas pour obtenir du temps de jeu et poursuivre son développement, moi, je pense qu'il y avait encore de l'espace pour développer ce joueur-là au sein de la MLS. Il avait encore des choses à apprendre. C'est pour moi un des excellents milieux de terrain capable de voir le jeu et de traverser le terrain avec une balle au pied, ce qui est très rare pour un milieu de terrain en MLS. Hein. Souvent, lorsqu'on veut faire une transition gauche-droite en MLS, ça va être un ballon dans les airs. Ismaël Koné avait cette capacité-là de faire cette transition-là au pied, au sol, et ça, c'est épatant pour un jeune joueur de son niveau et de son expérience de jeu. Donc, ça en dit beaucoup sur le potentiel et la capacité d'Ismaël Koné. Et j'espère qu'il va continuer son développement. Maintenant, est-ce que je suis nerveux pour la saison prochaine? Et là, je vais vous inviter à venir vous joindre à nous si vous le voulez. Donc, êtes-vous nerveux pour le collectif du CF Montréal en 2023? Venez jaser en direct. Je lance l'invitation sur les différentes plateformes. Donc, ça s'en vient, là. Si vous voulez venir en direct avec nous, en studio, ben, je vous ai donné le lien pour venir nous rejoindre et ça va me faire plaisir de partager ça avec vous. Donc, êtes-vous nerveux? Moi, sincèrement, je vais être franc avec vous, je ne suis pas nerveux pour 2023. Je vais lancer l'invitation sur Facebook parce que je ne l'avais pas fait. Donc, ceux qui sont sur Facebook, qui veulent participer à l'émission, c'est le moment. Donc, est-ce que vous êtes nerveux pour 2023 avec le CF Montréal? Moi, personnellement, je vais être franc avec vous, je suis loin d'être nerveux pour l'édition 2023 du CF Montréal. Il y aura beaucoup de changements à prévoir. Au moment où on se parle, bon, très peu de choses se sont confirmées, mais il y a beaucoup de bruit en coulisses là, sur le départ de Wilfrid Nancy. Alistair Johnston, c'est confirmé. Le non-retour de Victor Wanyama, jusqu'à preuve du contraire, c'est confirmé. La vente d'Ismaël Koné, ça n'a pas été confirmé par le club, mais Fabrizio, normalement, lorsqu'il lance ce genre d'informations-là d'Ismaël Koné à Watford, je pense que Fabrizio Romano parle rarement à côté de la plaque. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut fortement arriver du côté du CF Montréal. Donc, un visage qui va changer de cette formation-là. Mais on va quand même, du côté d'Olivier Renard, là, mettre la main sur énormément d'argent. Et on parle là, de 20-25 millions qui pourraient aboutir dans les coffres du CF Montréal. Mathieu qui nous dit « C'est beaucoup trop tôt pour être nerveux, ça dépend du projet du club. La conférence de Joey Saputo, c'est quand? » Et moi, sincèrement, je vois plusieurs gens que je sens nerveux sur les réseaux sociaux présentement à dire « Jeff, il y a beaucoup de ventes, mais très peu d'acquisitions. » Et je vais être franc avec vous, je pense que c'est normal. Donc là, présentement, on est en train de faire de la place, on va dire comme ça, au sein de l'effectif avec les ventes de joueurs qui pourraient arriver. Est-ce que Kamal Miller pourrait partir? Est-ce que Yoel Waterman pourrait partir? Ils sont également sous l'objet de rumeurs. Paparizzi a dit « Jeff, moi, je suis à l'aise, je suis correct avec l'an prochain. » Alfredo nous dit « Est-ce qu'on va avoir de nouveaux joueurs? » Et c'est ça qui revient beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est cette non-confirmation-là de l'arrivée de nouveaux joueurs. Mais à ce moment-ci, moi, sans dire que je veux vous réconforter, je vous dirais, gang, c'est normal. Présentement, il y a peut-être d'autres joueurs qui vont être vendus. On s'en attendait après la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Mais plus qu'il y en aura, bien, plus qu'on aura de latitude du côté d'Olivier Renard pour faire nos acquisitions et on verra également les besoins réels sur le terrain. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que si, par exemple, on a vendu Mihailovic et qu'on remplace immédiatement Mihailovic par un joueur, peu importe le joueur que vous allez me nommer, mais on fait une grosse acquisition. Je vous donne un exemple pour Mihailovic. Donc là, tu confirmes le contrat de joueur et finalement, en bout de ligne, tu perds Miller, Waterman et Alistair Johnston. Ben, je pense que tu te ramasses dans une problématique derrière le terrain. Et là, ben, tu as perdu un peu de latitude pour aller chercher des nouveaux joueurs. Donc moi, je pense que c'est normal qu'on procède à toutes les ventes. Et à partir du moment où les ventes seront confirmées, ben là, on pourra dire « OK, voici les besoins du CF Montréal ». Pour la saison 2023 et regardons ce qu'on peut faire avec ça. Et comme je vous disais tantôt, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont revenir en prêt? C'est une possibilité qui existe. On peut avoir vendu Ismaël Koné pour le plus gros montant de l'histoire d'un transfert avec cette formation-là et quand même l'avoir en 2023. Donc ça va être intéressant de suivre ça. Michael nous dit « J'ai hâte de voir l'annonce de qui sera le prochain coach. Hâte aussi d'avoir enfin la confirmation que RDS diffusera des matchs. » Renard avait dit qu'il limiterait le nombre de ventes par mercato. On est rendu à 3, sans compter Wanyama qui ne reviendra pas. C'est beaucoup de changements. C'est beaucoup de changements, je suis d'accord avec vous. Par contre, la philosophie, on le savait, du CF Montréal, c'est de recruter, former, vendre. Ce qui me fait pas sursauter, mais ce qui me fait un peu rire. C'est une façon de le voir, là, mais il y a beaucoup de gens parmi vous, parmi les auditeurs et surtout parmi les réseaux sociaux dans son ensemble. Je ne veux pas cibler personne parce que j'ai pas de nom à vous donner, là, c'est pas le but. Mais j'ai vu plusieurs commentaires lorsqu'on a signé ces joueurs-là. Et là, on a pour à peu près 2 millions de signatures et de transferts qu'on vient de vendre pour 20-25. Fait que moi, ça me fait rire quand on dit, Jeff, on peut pas signer des joueurs avec des frais de transfert du côté du CF Montréal, donc on se limite avec ce qu'on peut ramasser. Donc tout le monde riait des acquisitions d'Olivier Renard, même si on était confiant, même si on savait qu'Olivier Renard allait faire progresser ces joueurs-là et avait quand même un œil, on va le dire comme ça, intelligent pour recruter. On ne se le cachera pas, là. Olivier Renard a clairement un bon talent pour dépister les jeunes prospects. On le voit là présentement. On vit avec. Mais ce que je veux dire, c'est que ces joueurs-là, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas excité personne. Il n'y a personne qui était excité quand on a signé Ismaël Koné. Il n'y a personne qui a capoté quand on a signé Alistair Johnston. Il n'y a personne qui a capoté quand on a signé... peu importe là, les joueurs Waterman, Miller, nommez-les toutes. Et là, aujourd'hui, on vend ces joueurs-là et c'est comme si le CF Montréal serait en train de faire une vente de feu. Puis là, on capote, on panique, mais qu'est-ce qu'on va faire? Soyez patient. Soyez patient. Il y a un plan. Il y a un plan derrière tout ça. Il y a des joueurs qui sont là, qui vont gagner du temps de jeu, qui sont déjà avec la formation. Il y a d'autres joueurs qui vont arriver, mais avant d'arriver, il faut compléter d'abord les transferts sortants avant d'amener de nouveaux joueurs. Mais moi, ce que je vous dis, c'est donnons le temps à Olivier Renard. Et je vais sauter, là, je vais revenir à certains commentaires, mais je vais prendre le commentaire de Martin Pilon sur Facebook qui nous dit « Jeff, Olivier Renard pensait pas probablement qu'il y aurait autant d'intérêt » lorsqu'il avait mentionné qu'il n'y aurait pas plus que 2-3 transferts. Et je suis sûr également qu'il ne pensait pas avoir cette explosion-là. Samuel Clavet nous dit « On ne peut pas non plus nécessairement acheter alors qu'on ne sait même pas qui va coacher l'an prochain. » Moi, je pense que Samuel, effectivement, il faut procéder. Il faut procéder, peu importe l'entraîneur-chef, que ce soit Wilfried Nancy ou que ce soit un autre. Le CF Montréal s'est doté d'une vision et d'un projet sportif, d'une animation sportive qui est importante et qui doit être préservée, peu importe qui sera derrière le banc du CF Montréal pour la saison prochaine. Donc, dans le style qu'on a cherché à mettre en place, moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'Olivier Renard que de Wilfried Nancy. Mais à partir de ce moment-là, il faut aller dans la continuité de ce projet de jeu-là. C'est ça qu'il faut sauver. Au-delà de l'entraîneur-chef, faut continuer le projet. Donc, qu'on achète des joueurs, oui, je suis ouvert à ça, peu importe l'entraîneur-chef, mais l'entraîneur-chef doit aller en continuité avec le projet sportif actuel. Alexandre, qui est là avec nous via Facebook, dit... Comme j'arrête pas de dire à tout le monde, peu importe les joueurs sur le terrain, peu importe le staff sur le banc, peu importe le staff dans les bureaux, faut supporter notre club. Faisons confiance à Olivier Renard, il est exceptionnel, comme tu dis Jeff. Et effectivement, faut lui donner la chance, le pouvoir et la latitude pour procéder à ces acquisitions-là qu'il devra faire au cours des prochaines semaines en vue de la saison 2023. Donc, il y a beaucoup d'incertitude. Mais la bonne nouvelle, c'est que le projet, il est vivant. Il y en a plein qui ont décrié que c'était ridicule, le projet de recruter, former, vendre. Et là, on voit les résultats. On ne peut pas être déçu pour le CF Montréal. Oui, dans la... Comment je pourrais dire? L'habitude des Nord-Américains avec le sport, on veut s'attacher à des joueurs. On veut s'identifier à des Romel Kyoto, à des Samuel Piette. On a besoin de s'attacher à quelqu'un et ça va être difficile. Le CF Montréal est en train de nous le démontrer. Donc, il y aura une grosse, grosse job à faire au niveau des communications chez le CF Montréal pour maintenir année après année, l'intérêt du public pour soutenir cette formation-là. Le succès sur le terrain sera directement relié au succès dans les gradins. Et on l'a vu cette saison, le CF Montréal, qui a eu quoi, 6, 7, 8 matchs sold out en fin de saison. Pourquoi? Parce que cette équipe-là, elle était excitante. Parce que cette équipe-là offrait un bon spectacle. Et c'est pas vrai que tous les joueurs, tous les fans qui sont venus voir ces matchs-là étaient là pour soutenir des performances individuelles. On connaissait plus ou moins les joueurs dans les nouveaux qui sont venus au stade. Donc, ceci étant, je pense qu'il y a de quoi à faire. Mais ça va prendre du marketing de masse pour convaincre les gens de supporter ce projet-là. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on termine la saison 2022, deuxième dans l'Est, avec une saison extraordinaire au-dessus des attentes de tout le monde, parce qu'il n'y a personne qui les avait vus en début de saison se battre, jusqu'où ils se sont battus. Et sincèrement, de voir autant de ventes de joueurs chez le CF Montréal, bien, ça démontre le sérieux et l'ambition de cette formation-là. Donc, ça démontre que effectivement la recette, elle est bonne. Et si on réinvestit une parcelle de cet argent-là, et moi, j'ai pas besoin qu'on remette 20 millions sur le terrain, c'est pas la question. Et de mettre 20 millions pour aller chercher 3 gros DP, on va fucker le projet sportif qu'on est en train de bâtir. Donc, sincèrement, j'y tiens pas. On pourrait se revirer de bord aujourd'hui, signer Olivier Giroud, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi dans les conditions actuelles? Ça sert absolument à rien. Donc, je suis très confiant pour 2023 parce qu'avec rien, on a bâti une équipe qui s'est ramassée au deuxième échelon dans l'Est, qui s'est battue, qui a présenté le plus de joueurs sur la sélection canadienne en Coupe du Monde. Bref, c'était la saison 2022 a été un succès sur toute la ligne. Michael nous dit, est-ce que des joueurs de CPL pourront remplir les chandails avec le CF Montréal? Michael, le plan n'est pas de remplir des chandails. Le plan n'a jamais été de remplir des chandails. Et souvenez-vous, on en a fait monter des joueurs de CPL. Je pense entre autres à Yoel Waterman. On a tout dit, c'est un joueur de CPL. Mais aujourd'hui, il fait partie des joueurs qui sont dans les rumeurs de transactions et de transferts. On parle de peut-être 2 millions pour Yoel Waterman. Donc, c'est donc signe que les joueurs acquis par le CF Montréal qui provenaient de la CPL ne sont pas là pour remplir des chandails avec le CF Montréal. Donc, enlevez-vous ça de la tête tout de suite. Le CF Montréal ne remplit pas de chandails. Je pense que chacun des membres de cette formation-là a été important pour le collectif. Et si on regarde l'évolution de ces joueurs-là, ben il y a des joueurs qui, cette année, ont semblé, je veux pas dire inutile, mais qui ne semblaient pas avoir de contribution sur le collectif, qui vont exploser en 2023. Et là, je vous dis ça, puis il y en a, je sais déjà qu'il y en a qui vont rire, qui vont dire « Jeff, arrête ça, là ». Mais c'est ça, Waterman n'a pas explosé avec le CF Montréal à sa première saison. Il s'est construit tranquillement, pas vite, et aujourd'hui, on est face à la réalité qu'il est. Lassie Lapalainen a fait la même chose. Mathieu Choignard a fait la même chose. Bref, on a des joueurs qui ont évolué. Donc moi, cette année, là, j'ai vraiment confiance dans l'évolution que pourront prendre. Non seulement l'évolution, mais le rôle qui sera concédé également à des joueurs comme Sunusi Ibrahim, des joueurs comme Joaquin Torres, Ahmed Hamdi. C'est tous des joueurs que je veux voir évoluer et qui, à première vue, peuvent sembler des choix qui ne seraient pas judicieux, mais je pense que sur le long terme, ça va le faire. Mathieu nous dit « Joueur canadien ou américain en manque de temps de jeu, jouant à l'étranger serait un bon recrutement. » Il ne faut pas oublier, il y a Nacho Piatti également en Argentine qui recrute pour le CF Montréal. Et je pense qu'on peut zioter là-bas. Les frais de transfert sont souvent anémiques. Et on le sait, là, historiquement, le CF Montréal n'investit pas énormément en frais de transfert. C'est une décision administrative. Qu'on la respecte ou non, c'est leur décision. Mais je pense qu'effectivement, c'est là qu'il faudra piger. Alexandre nous dit « Je suis très confiant pour 2023, Jeff. Au début de 2022, personne n'y croyait. On a fini troisième au classement général. C'est fou comme je suis fier d'être Montréalais. » Et c'est exactement ça. Mathieu dit « Il faut plus de joueurs académiciens pour devenir des bons joueurs de la MLS. » Il y a énormément de changements, Mathieu, qui vont s'effectuer pour la prochaine saison avec le CF Montréal en PLSQ. On est déçu. On ne se le cachera pas, on est déçu des performances de cette formation-là et des résultats atteints par le CF Montréal du côté de la PLSQ. Il faut hausser le niveau, c'est clair. Il faut qu'il y ait, sans dire un point A au point B, mais Mathieu, moi, de la façon que je vois ça, il faut que tu aies 5 joueurs qui soit en prêt en CPL, que ces 5 joueurs-là se greffent à un moment ou un autre au CF Montréal et que les 5 meilleurs joueurs de ton académie, donc de ta PLSQ, qui deviennent des prêts en CPL. Donc, il faut que ce soit une roue qui tourne. Tes joueurs sont en PLSQ lorsqu'ils ont atteint le plafond et qu'ils font partie de tes 5 meilleurs joueurs de ton effectif. Ils doivent se retrouver en CPL. Lorsqu'ils sont 5 joueurs dominants en CPL, il faut qu'ils aboutissent avec l'équipe première et c'est une roue qui tourne. Donc, on recommence. Il faut qu'il y ait 5 nouveaux joueurs qui arrivent en PLSQ qui vont progresser. Et tranquillement, pas vite, ben on va augmenter la progression. Et à chaque fois que tu as 5 joueurs qui apparaissent en PLSQ, ben souvenez-vous d'Olivier Renard qui disait « Le joueur le plus important n'est pas celui qui part, mais celui qui arrive. » Ben faut que ce soit ça. Faut que tu arrives avec 5 joueurs en PLSQ qui étaient meilleurs que tes 5 derniers. Donc, tu arrives en PLSQ avec 5 joueurs de plus de calibre que les 5 derniers qui vont exploser en CPL, qui vont arriver en équipe première. Et là, ben, on va constamment s'améliorer comme ça. Michael qui nous dit « Panthémis numéro 1 en 2023, j'y crois pas. Personnellement, je crois pas à James Panthémis numéro 1 en 2023. On aura Jonathan Serrois, on aura Logan Ketterer. » Et pour moi, ce sera là, les 2 gardiens du CF Montréal pour la saison 2023. Maintenant, il y a des négociations, semblerait, avec James Panthémis au moment où on se parle, alors que le CF Montréal n'a pas activé l'option sur James. Reste à voir qu'est-ce qui va se passer avec lui. Mais moi, sincèrement, c'est pas un joueur autour duquel je construirais pour le futur, puis c'est un choix bien personnel, mais James Pantemis, là, je pense qu'on a atteint un certain plafond dans la capacité de son développement, et je suis pas sûr que ça va continuer à progresser. Donc moi, c'est ma vision des choses. On va suivre ça avec vous pour les prochaines semaines, donc tout ce qui va se passer. On va revenir sur une base un petit peu plus régulière, malgré que là, je vous ferai pas de cachette, là. On va rentrer dans le temps des fêtes, on va rentrer, sans dire, dans une période plus creuse, mais il y aura moins d'actualité là, entourant le CF Montréal. C'est sûr qu'on va suivre les ventes, les transferts avec vous, mais notre dada, ben, c'est la saison régulière en CPL, c'est la saison régulière en PLSQ, c'est la saison régulière en MLS. Donc pour nous, à BBN Media, décembre est un mois qui tourne un peu plus au ralenti. Donc on va être là moins présent, c'est sûr qu'on va être là moins présent, mais on travaille énormément en coulisses pour préparer et mettre la table à cette saison 2023 et continuer de vous offrir un produit de qualité pour 2023. Puis j'espère que vous allez être là avec nous pour écouter ça tout au long de la saison 2023. Donc, ça fait le tour. Beaucoup de changements à prévoir chez le CF Montréal. On va suivre ça pour vous ici à BBN Media. Je vous invite à ne rien manquer de tout ça. Mon nom est Jeff Morancy. Je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir. Et on se reparle là, à quelque part la semaine prochaine pour une nouvelle édition de votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Bonne semaine à vous autres. Martin qui nous dit « Bonne semaine, Jeff. Joyeuse fête. » Merci à toutes vous autres aussi. Hein. Joyeuse fête. Prenez soin de vous autres, de vos familles. C'est important. Paparizia qui nous dit « Super bon show. Merci. » Sébastien qui dit « Merci, Jeff. Bonne soirée à toi. » Vraiment content d'avoir été là avec vous. Et on se donne rendez-vous donc la semaine prochaine. L'objectif en décembre, là, c'est un show par semaine. Un show par semaine, je pense qu'on va être popé. Un rendez-vous du dimanche soir comme ça, je pense que ça pourrait être intéressant. On regarde tout ça, mais suivez nos réseaux sociaux. On va être là avec vous. Bonne semaine tout le monde. À la prochaine.